RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Notre invitée est Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être notre invitée. Donc après les violences de samedi, Édouard Philippe a annoncé une série de mesures, dont l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, le retour assumé des LBD, des drones, arrestations préventives, voilà pour la panoplie sécuritaire. Mais la réponse politique est tombée avec la tête du préfet de police de Paris, Michel Delpech, limogé. C'est le pouvoir policier qui est sanctionné. Est-ce la bonne réponse, d'après vous ?
Non, c'est pas la bonne réponse, mais ça n'est pas la bonne réponse en réalité depuis des semaines et des semaines. On répond pas à la souffrance d'un peuple par une réponse policière. Or, on voit bien que le gouvernement, au fur et à mesure des semaines, a eu le sentiment qu'il tirait un bénéfice électoral à incarner l'ordre face au désordre. Et la vraie question qu'on se pose au bout de 18 semaines, c'est est-ce qu'en réalité, il ne trouve pas un intérêt au désordre ? En tout cas, il a laissé le désordre s'installer, et particulièrement, il faut bien dire, samedi dernier, oui, où un certain nombre de syndicats policiers ont dénoncé le fait qu'on leur avait demandé de ne pas intervenir contre les casseurs, contre ces anarchistes d'extrême gauche qui s'organisent en black bloc et dont l'objectif est évidemment, dans le cadre d'un agenda révolutionnaire, de venir s'attaquer à des boutiques de luxe, à des banques, etc. Alors,
vous ne cautionnez évidemment pas ces violences.
Mais personne ne cautionne ces violences. La réalité, elle est là.
Clair, hein.
Personne ne les cautionne. Mais qui est le responsable ?
Non, parce que vous dites la souffrance d'un peuple, etc. Vous dites répondre à la souffrance d'un peuple.
Mais oui, parce que nous en sommes
les casseurs,
au 18e week-end de manifestation. Les casseurs se sont invités dans toutes les grandes manifestations sociales dans les dernières années. Il faut quand même le dire, et on a souvenir d'ailleurs, le 1er mai 2018...
Mais pas dans ces proportions-là, quand même.
Ah, 1200, ils étaient le 1er mai 2018, ils sont arrivés...
En termes de dégâts...
Ils sont arrivés une véritable armée, souvenez-vous.
Oui.
Ils ont détruit l'hôpital Necker, enfin les vitrines de l'hôpital Necker. Ils ont fait des dégâts considérables au fur et à mesure, et on les laisse faire. Mais... ils bénéficient d'une sorte d'impunité. Alors, qui est responsable, d'abord, du fait que... au bout de 18 semaines, il y a encore des gens qui viennent manifester, c'est évidemment le pouvoir politique. Pourquoi ? Parce que la réponse politique ne vient pas.
Oui, mais est-ce que la réponse politique, c'est dire oui à toutes les revendications ? Parce que c'est pas forcément évident de satisfaire toutes les revendications qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement variées en plus.
Mais vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle, dès d'ailleurs le mois de décembre, j'ai dit qu'on ne s'en sortirait pas autrement que par la voie qui est la voie de la Constitution française, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale et le vote préalable de la proportionnelle et du référendum d'initiative populaire pour qu'on revienne aux élections. Parce que quand on est bloqué ainsi dans une crise politique, dans une crise qui est aussi une crise de la représentativité, puisque ce qui est décidé à l'Assemblée nationale ne correspond pas en réalité à ce que veut la majorité du peuple français. La seule sortie de crise possible dans une démocratie, c'est le vote. Il n'y en a pas d'autre. Et si Emmanuel Macron avait fait ce choix-là, de dire « D'accord, j'ai entendu, il y a une crise politique, il y a une crise de représentativité, il y a une crise de la société, de l'injustice, parce que c'est ce que ressentent des millions de Français, alors, proportionnel, référendum d'initiative populaire, je dissous l'Assemblée, et vous allez voter pour une nouvelle Assemblée qui soit véritablement représentative. Et alors, nous remettrons sur la table la politique fiscale et la politique sociale dans notre pays. C'était terminé, c'était fini. Et là, pour le coup, des Gilets jaunes auraient pu d'ailleurs présenter une liste. Et là, on aurait pu, dans le cadre d'un projet législatif, évoquer toute une série de sujets qui sont aujourd'hui abordés, vous avez raison, par des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Des Gilets jaunes. Il y en a qui ont plutôt une sensibilité de droite, il y en a qui ont une sensibilité nationale, d'autres ont une sensibilité de gauche, d'autres d'extrême gauche, d'autres sont en réalité des déçus d'Emmanuel Macron.
Mais aujourd'hui, selon vous, on ne peut plus trouver les moyens par des réformes, par des mesures annoncées, on ne peut plus ramener le calme et mettre un terme à ces manifestations émaillées de violences variables, mais de violences tous les samedis. Il n'y a plus d'autres moyens que celui que vous venez de décrire.
Je crois que, encore une fois, quand on est face à une situation aussi compliquée, il faut en revenir à notre loi suprême. C'est la Constitution. Et j'ai envie de vous répondre, non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que au départ, on est sur une jacquerie fiscale. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus, ils ne peuvent plus, ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire la moindre augmentation de taxes ne leur permet plus, en réalité, de boucler les fins de mois, si tant est qu'ils les bouclent, parce qu'ils sont beaucoup déjà à pas les boucler. Et puis, ça s'est transformé en référendum, sur le référendum d'initiative citoyenne. Bon, moi j'appelle ça le référendum d'initiative populaire. Enfin, on peut discuter sur le fond, c'est à peu près le même concept. Et moi, je crains qu'il y ait un glissement comme ça qui s'effectue à chaque fois qu'une réponse soit apportée. Parce que la réponse, elle doit être mais globale. Et aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et puis, permettez-moi, madame, mais Emmanuel Macron n'a eu de cesse depuis le début de ce mouvement, et antérieurement à lui d'ailleurs, de faire preuve à l'égard du peuple français d'un très grand mépris. Honnêtement, les Français,
justement, le mouvement des Gilets jaunes ne l'a pas éclairé là-dessus sur ses propres errements, sur sa difficulté effectivement à se mettre parfois au niveau de.
On aurait pu l'espérer.
Certains Français.
On aurait pu l'espérer, mais en réalité, on voit bien que non. Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas changer. Et c'est ça la conclusion que je tire. Puisque après...
Attendez, il n'y a pas encore les décisions
pas,
prises
c'est pas le sujet.
Du grand débat.
Lui, personnellement, dans son rapport qu'il a au peuple, ce rapport qui, quand on est président de la République, doit être fondamentalement un rapport de respect, d'empathie, ça, il ne le changera pas. Et on l'a vu, lors de ses vœux, il a été incroyablement injurieux et méprisant à l'égard du peuple français. Et il continue à l'être à chacune de ses prises de parole. Factieux, foulaineuse. Il n'a eu de cesse de leur dire, en fait, vous êtes des boulets. Vous êtes des pois morts, et évidemment que ça a été de l'essence sur les braises, ou sur le feu qui couvait puis qui s'est déclaré.
On va reparler de cela, du mouvement social, mais sur la question initiale que je vous posais sur Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui affirme que le préfet n'a pas exécuté les ordres et les consignes. Pensez-vous que le préfet qui est limogé sert de fusible aujourd'hui ?
Bon, ça paraît évident à tout le monde. La vraie question, c'est au bout de combien de manifestations où les casseurs cassent, Monsieur Castaner va se dire, il faut peut-être que je présente ma démission. Car manifestement, je suis incapable de remplir la tâche qui m'a été confiée. Combien faut-il de manifestations ? Est-ce qu'on en est à 18 ? Il en faut 20, 22.
Et vous en êtes à combien de demandes de démission depuis ?
Tout le monde est conscient aujourd'hui que Monsieur Castaner a manifestement la tête ailleurs, et que, en tout cas, il est dans l'incapacité de pouvoir protéger d'abord ceux qui veulent manifester pacifiquement, et deuxièmement, ceux qui sont sur le trajet de cette manifestation, et je pense bien entendu aux commerçants. Quand on n'est pas capable d'assurer une mission, on démissionne.
On entend beaucoup d'appels à la démission de Christophe Castaner, et c'est traditionnel en fait, à chaque fois qu'un haut fonctionnaire est limogé pour un dysfonctionnement, l'opposition appelle à la démission du ministre.
Mais si on suit, si on suit ce raisonnement,
oui, mais si on suit ce raisonnement, le ministre de l'Intérieur lui-même reçoit ses ordres du Premier ministre, qui lui-même applique la politique du président de la République. Donc finalement, on devrait toujours en arriver à demander la démission du chef de l'État pour un oui ou pour un non, en quelque sorte.
Ah, écoutez, moi je sais bien que Emmanuel Macron est ministre de tout, en tout cas il cherche à être ministre
c'est le
de
chef
tout,
de l'État.
Mais en l'occurrence il est président de la République.
On n'a pas droit à l'erreur en politique ?
Non mais là c'est pas un droit à l'erreur, là c'est 18 fois de suite. 18 fois.
Il n'y a pas eu 18 fois de la casse.
Ah si, il y a eu 18 fois de la casse,
pas
plus ou moins grave.
Mais en réalité, week-end où il s'est rien passé.
À Paris, il y a eu des incidents en toutes circonstances. Samedi dernier, pardon, mais il y a des syndicats qui viennent vous dire, moi je suis désolé, mais c'est très grave et c'est le responsable politique qui doit en répondre. Des syndicats de policiers ont dit, on nous a demandé de ne pas intervenir. Et c'est vrai, il y a eu 600 CRS qui étaient, attendez-moi, 600 CRS qui étaient bloqués au rond-point des Champs-Élysées, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres. Or, les CRS, c'est précisément leur compétence d'empêcher ce type d'exaction. Eh bien, ils ont été cantonnés, 600, vous rendez compte de ce que ça représente, cantonnés en bas des Champs-Élysées, au rond-point des Champs-Élysées. Et l'ordre a été donné qu'ils n'interviennent pas. Eh bien, je suis désolé, mais les ordres politiques sont donnés par les politiques, et c'est les politiques qui doivent en assumer les responsabilités.
Alors, puisque vous évoquez les choses de manière très opérationnelle, Marine Le Pen, moi j'ai une question précise à vous poser. On a vu, c'est vrai, samedi dernier, des images assez sidérantes, des véhicules des forces de l'ordre prise d'assaut par des individus manifestement très mal intentionné, les policiers obligés de rebrousser chemin en catastrophe pour fuir. Dans une situation comme celle-là, très précise, vous avez dû voir ces images, si vous étiez aux responsabilités, quelles seraient les consignes qu'auraient les policiers ?
Alors d'abord, permettez-moi, mais il y a un travail qui est fait en amont, qui est d'abord un travail de renseignement. Oui. Tout le monde savait, c'était partout sur le net, partout sur le darknet également, oui. Hein, je pense que le gouvernement et les services de renseignement ont accès à cela, que les anarchistes se donnaient rendez-vous.
Je m'attendais un peu à ce que vous disiez, mais avec moi cette situation ne se serait pas produite.
Les anarchistes européens. Oui. Bon, y a quand même, on a quand même des moyens d'empêcher des Belges, des Italiens, des Allemands que l'on connaît, dont on connaît encore une fois l'activisme, dont on connaît l'identité, de rejoindre le territoire national pour participer à des manifestations dont on sait que l'objectif est qu'elles soient violentes. Deuxièmement, on a la possibilité, en l'occurrence parce qu'ils sont connus par les services de renseignement, de les empêcher d'arriver jusqu'au lieu de la manifestation. Il y a des centaines de gilets jaunes à plusieurs manifestations qui ont été bloquées alors que eux venaient pacifiquement dans des bus.
Donc ce scénario n'aurait pas pu se produire.
Qui ont été bloqués en amont. Mais je ne dis pas que c'est simple. Je dis que rien de ce qui est entre les mains de nos forces de l'ordre n'a été mis en œuvre pour pouvoir empêcher cela. Et puis il faut les arrêter.
Oui. Alors
et les condamner, mais les arrêter. Plusieurs fois. Il y a eu des témoignages exprimant que des gilets jaunes étaient arrêtés, mais que les professionnels, harnachés d'ailleurs comme tels, eux, ne semblaient pas faire l'objet d'une attention.
Donc est-ce que les gilets jaunes sont pris en otage par ces mouvements extrémistes ?
Une partie des gilets jaunes, bien entendu. Mais d'ailleurs, le gouvernement le dit lui-même, il dit ils sont utilisés en quelque sorte comme boucliers humains.
Oui, mais enfin certains gilets jaunes défendent la violence des casseurs car pour eux, c'est la seule solution pour se faire entendre. Est-ce que vous défendez les gilets jaunes défendent les casseurs ?
Ça va devenir extrêmement compliqué. Il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés.
Oui.
Réponse,
non. Oui.
Mais bien sûr que oui.
Oui.
Ils se sont radicalisés parce que 18 fois de suite, ils n'ont aucune écoute de la part du pouvoir politique et aucune réponse à leur souffrance. Ça, ils se sont radicalisés, une partie d'entre eux. C'est sûr. Bon.
Mais encore une fois. Et ceux-là, vous les soutenez ?
Mais non, mais je ne les soutiens pas. Mais ils se moquent de mon soutien, madame. Et du vôtre aussi. Ils se moquent de mon soutien. Ils se moquent de vos leçons de morale. Ils se moquent de tout cela. Eux, ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, on les a, en quelque sorte, radicalisés en ne leur apportant pas de réponse. On pourra dire tout ce qu'on veut sur les plateaux de télévision. Dire c'est mal, c'est pas bien. Oulala, les affreux, les galeux, etc. Mais ça n'y change rien.
Est-ce que samedi, vous appelez à ne pas manifester ?
Mais non, mais je ne peux pas appeler à ne pas exercer une liberté.
Vous pourriez avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé quoi dans votre fort intérieur en regardant ce qui s'était passé samedi?
Excusez-moi, je ne suis pas maîtresse d'école, je ne suis pas professeur de morale. Moi, je suis une responsable politique et je suis même la chef de l'opposition.
Mais vous pouvez l'être quand ça vous arrange.
Non, je suis la chef de l'opposition. Et je suis là pour faire respecter, entre autres, en tout cas dans son esprit, la Constitution française et les grandes libertés publiques qui aujourd'hui reculent sous l'action d'Emmanuel Macron. Elles reculent assez gravement. Est-ce que dans notre pays, on doit préserver la liberté de manifester ? La réponse est oui. Est-ce que les forces de l'ordre doivent recevoir les instructions pour que ceux qui ne viennent pas manifester pacifiquement, qui viennent commettre des violences, soient arrêtés ? La réponse est oui, 100 fois oui. Voilà. Maintenant, c'est à eux de le mettre en œuvre. Et manifestement, au bout de 18 fois, ils en sont incapables.
Ouais. Il nous reste assez peu de temps. Il faudrait qu'on dise un petit mot de l'Europe, tout de même, puisque les élections approchent. Est-ce qu'on peut dire que le programme européen du Rassemblement national est désormais parfaitement abouti et parfaitement au clair?
Oui, bien entendu, il est parfaitement au clair. Et d'ailleurs, nous allons révéler, en quelque sorte...
Ouais, parce que pour l'instant, sur le site internet du Rassemblement National, c'est difficile de trouver les orientations européennes que vous proposez.
Vous me direz, En Marche, t'as même pas de tête de liste.
Ouais.
Bon, donc, nous avons rédigé un manifeste d'une centaine de pages pour expliquer quelle est la philosophie qui est la nôtre et quelle est cette alliance européenne des nations que nous voulons voir émerger à la place de l'Union européenne.
En fait, vous espérez changer l'Union européenne avec vos amis après les élections.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je viens dire, l'Union européenne l'organisation européenne doit pouvoir être conçue autrement que cette Union européenne que je considère comme carcérale.
Donc vous voulez y rester.
Et dont les,
Mais puisque si vous voulez la changer avec vos amis, c'est que vous voulez y rester désormais.
Oui, mais je suis
la donne a changé.
Mais je ne suis pas contre une organisation européenne. Je ne veux pas qu'elle organise la concurrence déloyale. Je ne veux pas qu'elle organise la submersion migratoire. Je ne veux pas qu'elle organise l'austérité. Je ne veux pas qu'elle organise le moins-disant social, fiscal, environnemental. Je ne veux pas tout cela. Je ne veux pas du libre-échange. Je veux une coopération entre des nations libres. Je veux que ensemble on puisse mener des projets comme on l'a fait par le passé avec Airbus, avec Ariane. C'est cela que je veux, qu'on s'attaque au grand dossier technologique du 21e siècle, l'intelligence artificielle notamment. Voilà des sujets qui méritent que les nations se mettent ensemble.
Vous avez parlé de moins-disant social, Marine Le Pen, en disant que vous n'en vouliez pas. Ouais. Un mot de Viktor Orban, que vous défendez, dont vous considérez que c'est un président qui défend les intérêts de son pays, qui ne cède pas aux injonctions de Bruxelles. Vous savez qu'il y a une très forte contestation en raison d'une loi qui permet aux entreprises d'exiger de leurs salariés qu'elles travaillent jusqu'à 400 heures de travail supplémentaire payables jusqu'à 3 ans plus tard par les entreprises. Ça, c'est du moins-disant social, non ?
Mais oui, mais monsieur, comprenez bien. Moi, je me bats contre l'Union européenne parce que je ne veux pas qu'on impose à la France un modèle.
Vous respectez la décision.
Mais la contrepartie, c'est que moi, je ne veux imposer mon modèle à personne. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est moi qui ai raison et l'Italie a tort ou la Hongrie a tort. Chaque peuple décide pour lui-même. Ça s'appelle la démocratie. Ça passe par des élections. Ils ont voté pour Viktor Orban. Si demain ils sont en désaccord avec ce que fait Viktor Orban, Viktor Orban sera battu. Mais je veux dire, je crois que fondamentalement, le souverainisme, c'est ça. C'est de dire on est maître chez nous. Mais on ne vient pas imposer aux autres ce qu'ils doivent faire ou la manière dont leur économie doit être
organisée.
Marine Le
Pen, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le Brexit est un succès ou un échec ? On voit que Honda s'en va du pays, que la Banque d'Angleterre prédit une croissance 2019 au plus bas depuis 10 ans.
Moi, je me méfie un peu de ce que dit la Banque d'Angleterre, avant le Brexit.
En tout cas, l'investissement recule depuis deux ans, c'est clair. Ça, c'est des chiffres. C'est un échec ou un succès?
Non, mais ni l'un ni l'autre.
Ah, ni l'un ni l'autre.
Non, mais ni l'un
ni l'autre. Vous disiez pas ça au début.
Mais ni l'un ni l'autre. C'est une décision du peuple britannique. Point. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Ils ont décidé.
Le peuple a raison.
Mais bien sûr. Mais personne d'autre n'a raison face à lui. D'accord? Alors, vous me donnez des chiffres qui sont effectivement pas très bons. Mais il y en a d'autres très bons. Ils viennent de passer à 3,9% de chômage. C'est le plus bas taux de chômage depuis 1975. Les salaires ont augmenté de 3,4% sur la dernière année. Honnêtement, on aimerait avoir des chiffres comme ça aussi. Donc, il y a des chiffres qui sont bons, il y en a d'autres qui sont moins bons. C'est une économie solide. La vraie question, c'est est-ce qu'on a un intérêt, nous, Français, à rendre ce divorce le plus difficile possible alors que nous risquons d'en être les premières victimes?
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Marine Le Pen et on se retrouve.